Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. Début ce 9 février des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. La présence des athlètes russes pose question depuis que la réalité d'un dopage d'État en Russie a été révélée. Le pays a été mis au banc des compétitions olympiques. Seuls des athlètes russes qui auraient échappé à ce dopage institutionnalisé sont autorisés par le Comité Olympique International à participer à ces Jeux sous bannière neutre. Et puis voilà qu'un jugement du TASS, le tribunal arbitral du sport, blanchit donc des sportifs russes précédemment bannis par le CIO. Alors peuvent-ils participer désormais? Le CIO a finalement tranché, les Russes ne participeront pas à ces Jeux, sauf ceux bien sûr qui peuvent le faire sous la bannière neutre. Deux décisions qui semblent contradictoires et qui laissent entière la même question. La Russie a-t-elle sa place aux Jeux Olympiques? On va en parler avec deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Florent Parmentier, maître de conférence à Sciences Po et cofondateur d'un site web géopolitique qui s'appelle Eurasia Prospective. Bonsoir à vous, Florent Parmentier.
Bonsoir.
Et puis Vincent Chaudel est économiste du sport, expert du cabinet Wavestone. Il est au téléphone. Bonsoir Vincent Chaudel.
Bonsoir.
Je reviens à vous dans quelques moments parce que l'histoire est compliquée et j'aimerais, pour y voir plus clair dans cette affaire, que vous nous fassiez, par exemple, on peut démarrer avec vous, Florent Parmentier, un bref résumé de ce qui s'est passé à partir du moment où les faits de dopage d'État sont révélés par ce documentaire allemand.
Oui, je crois qu'on peut distinguer quatre phases dans cette histoire pour simplifier peut-être les faits qui sont énoncés. La première phase, c'est celle de la révélation. La révélation, c'est ce documentaire sur la chaîne allemande ARD, qui montre la réalité d'un dopage d'État, qui est bien établi. Et cette idée voilà du dossier secret sur le dopage, comment la Russie produit ses vainqueurs, a permis de mettre l'accent, en tout cas, sur un point sur lequel la Russie, comme d'autres pays, était souvent suspectée. Mais là, on a un premier élément qui va dans le sens de la révélation. Un second temps qui est celui de la confirmation. Cette confirmation, c'est un article paru dans le New York Times par Grigory Rodchenkov, qui est l'un des responsables de l'agence russe antidopage.
Oui, un ponte.
Et qui évoque effectivement cette réalité, qui confirme en quelque sorte ce point. Troisième temps, c'est celui de la sanction. La sanction, c'est le CIO, qui sur la base d'un certain nombre d'éléments, avance l'idée selon laquelle le comité olympique russe est exclu. Exclu parce que coupable d'un certain nombre de choses, ainsi qu'un certain nombre de sportifs et de médaillés des Jeux Olympiques de Sochi, qui ont lieu en 2014 en Russie. Et là, ça a été un point, effectivement, qui a été débattu. En tout cas, la Russie a fait appel, d'où l'intervention du tribunal arbitral du sport. Et il y a un quatrième temps qui est celui soit de la négociation, soit de la réhabilitation, qui arrive au moment où le tribunal arbitrage du sport invalide en fait un certain nombre d'actions et annule un certain nombre de sanctions visant quelques athlètes russes.
Et ça, c'est encore en cours finalement.
On va
voir comment ça se termine cette affaire. Vous êtes d'accord avec ce récit, Vincent Chaudel?
Oui, il est chronologique, il est factuel. Pas grand-chose à dire par rapport à cela. Ce qui est intéressant finalement, c'est la quatrième phase et peut-être la cinquième qui va s'ouvrir avec. C'est-à-dire, on rentre dans la géopolitique. Et comment on tient compte ou pas de la Russie pour construire le monde de demain et notamment le monde olympique. On a bien vu que le mouvement olympique d'une façon plus générale avec l'attribution des Jeux Olympiques là, 2024 et 2028 pour Paris et Los Angeles, le vrai sujet c'est refonder, réorganiser, adapter le mouvement olympique aux contraintes d'aujourd'hui, et ça sera difficile de le faire avec une Russie en pleine opposition avec la Russie de Poutine, même si elle doit être sanctionnée ou tenir compte de ses excès passés et corriger.
D'autant qu'il est impossible de savoir jusqu'où et depuis quand finalement remonte cette conspiration entre guillemets et à combien d'athlètes elle aurait bénéficié.
Oui, mais alors là-dessus, c'est peut-être un peu facile de tomber sur la Russie. Évidemment, le sujet de la suspicion de dopage, elle n'est pas récente, elle date pas des années 2010, elle date depuis très longtemps. Mais est-ce qu'il y a que les Russes qui se sont dopés? Est-ce que il y a pas eu du dopage en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis ou dans d'autres pays? Donc il y a un problème qui s'appelle le dopage. C'est pas un problème russe. Il y a eu un problème en Russie de dopage qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer. Ça, c'est pas le sujet. Il faut surtout imaginer le monde de demain dans le sport, y compris pour les Russes.
D'accord. Cette accusation, Florent Parmentier, de dopage généralisé, parce que c'est là, est remise en cause par la Russie, bien évidemment. Est-ce qu'elle a des arguments face aux enquêtes, aux témoignages qui ont été produits ces dernières années?
Alors effectivement, sur ce qui concerne d'abord l'antériorité des critiques, ça a été très justement dit précédemment, ça ne date pas des années 2010. En réalité, dès l'arrivée de l'Union soviétique aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 pour les Olympiques d'été et à Cortina d'Ampezzo en 1956, donc l'URSS est dans une position où, en pleine guerre froide, elle doit montrer que son système est supérieur à tout le reste. Mmh. Et donc peut-être l'originalité, c'est qu'on a... On a peut-être d'un côté des systèmes organisés de dopage d'État, Russie, Chine, quelques autres acteurs. Allemagne de l'Est, face à des systèmes décentralisés de dopage, c'est-à-dire tout simplement parfois le dopage ne remonte pas au niveau de l'État, mais en quelque sorte sous-traité. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est vrai que la particularité est quand même la possibilité cette fois-ci de montrer que les racines du dopage sont vraiment très ancrées au sein des structures. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'on parle de tricherie aux Jeux Olympiques. Traditionnellement, toutes les compétitions de patinage artistique tombent toujours sur la critique des juges qui s'échangent, et la France a été y compris au jeu de Salt Lake City, là aussi un peu dans la tourmente par rapport à ça, et les suspects, enfin on a des suspicions selon lesquelles parfois on s'arrangeait avec différents...
Oui, c'est la corruption, on est dans un registre un petit peu différent quand même.
Oui.
Pourquoi, mais alors vous ne répondez pas à la question que je posais, c'est-à-dire quels sont les arguments de la Russie, peut-être Vincent Chaudel pourrait le faire, face à ces enquêtes, à ces témoignages produits à l'occasion de ces enquêtes?
Les arguments sont un peu difficiles à démontrer, parce que effectivement les enquêtes ont été très bien faites et elles ont mis en évidence ce que jusqu'ici le pouvoir russe voulait nier. La démission du ministre en est la preuve. Il a tenu le plus longtemps possible sa position et il a dû assumer son retrait. Donc le sujet, c'est que au-delà des athlètes, et on avait déjà la rumeur par rapport à Sochi, mais c'était très difficilement concevable de sanctionner le pays hôte. Donc on est vraiment dans le mouvement olympique, dans de la géopolitique, et on voit bien que à travers des événements sportifs, là aujourd'hui c'est Pyongyang en Corée, que le sport peut apporter beaucoup de choses et des choses positives pour le monde. Le fait que défilent sous un même drapeau ou jouent dans des mêmes équipes des Coréens du Nord et du Sud ou des Coréennes du Nord ou du Sud, il y a quelques mois, quand le dirigeant de Corée du Nord s'amusait à tirer des missiles, de faire ses essais avec des missiles nucléaires, on en était assez loin. Donc en même temps, il faut être juste pour tout le monde, pour que tous les athlètes partent sur un pied d'égalité et lutter contre le dopage. Et en même temps, il faut voir ce que le sport peut apporter dans la géopolitique et la Russie en particulier. Et c'est là que c'est compliqué, parce que la Russie a un rôle en dehors du sport très important.
Ouais. Florent Parmentier, sur la responsabilité de la Russie et la manière dont elle se défend de ces accusations.
En réalité, la Russie ne se défend pas tellement sur les faits. Effectivement, l'enquête a été bien faite. Elle va plutôt insister sur la dimension politique de ces attaques, en disant deux choses. Enfin, en ayant à l'idée, en fait, que, effectivement, les domaines géopolitiques, politiques et sportifs sont liés. Comment? Bah, tout simplement avec cette idée que si une chaîne allemande a commencé à parler de cette enquête en 2014, en décembre 2014, c'est bien que, à ce moment-là, on a une, on va dire, des relations au plus bas entre les États-Unis, les Européens, la Russie à propos de la guerre en Ukraine. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que les accusations qui ont été vues en 2014, en 2016, ont un lien direct avec la dégradation des relations en Ukraine, et c'est un moyen de montrer à la Russie qu'elle doit être sur le banc de la population si elle procède à l'annexion de la Crimée. Je pense qu'il y a ça vraiment qui est en tête. Et puis il y a aussi cette dimension sport et politique importante qui est pour la Russie tout simplement que les grandes fêtes sportives, les grands événements sportifs sont pour la Russie un moyen de se réaffirmer sur la scène internationale et de se refaire une image. Ça a été vrai à Sochi. Effectivement, mais cette grande opération de communication, de modernisation de la Russie avait été entachée à la fois du conflit ukrainien, mais également d'un certain nombre d'accusations de corruption sur la grandeur des travaux qui avaient été réalisés. Et puis une affirmation aussi de volonté de respectabilité qu'on voit par exemple dès cet été à propos de la Coupe du Monde de football qui aura lieu en Russie.
On va en reparler tout à l'heure. Pourquoi le tribunal arbitral du sport international, pourquoi a-t-il décidé de blanchir ces athlètes soupçonnés de dopage? Est-ce que vous avez une idée de la réponse à cette question, Vincent Chaudel?
Je pense qu'on est déjà dans manier le chaud et le froid, et qu'on est déjà dans une dimension où on va aller atténuer la vexation publique qui a été faite à la Russie en préparant l'avenir, en disant bon, ils n'étaient pas tous dopés, et certains sont réhabilitables. Donc moi j'opte toujours pour cette lecture de géopolitique avec la Russie et notamment avec Vladimir Poutine, parce qu'effectivement le sport, les événements sportifs comme pour la Chine ont une dimension très politique intérieure pour la Russie. C'est un pays qui est très particulier, c'est un pays d'une temps de l'Union soviétique qui était très très grand, et les équipes de l'Union soviétique, c'était le lien, le ciment de la nation. La Russie est aujourd'hui moins grande, mais il y a quand même différentes populations au sein de la Russie, et les équipes russes ont toujours cette dimension-là.
Donc, le TASS, fait une décision politique, c'est ce que j'entends de ce que nous dit Vincent Chaudel. Où se joue le rapport de force, Florent Parmentier, selon vous?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs réponses à cette question rapport de force. Il y a d'abord une forme effectivement de marginalisation symbolique de la Russie. Il n'y aura pas de drapeau russe au moment des médailles. Il y aura un hymne qui sera l'hymne olympique et pas l'hymne de la Russie. Donc il y a une marginalisation symbolique.
Il y a une volonté de réhabilitation quand même là, de la part du TAS, non?
Mais effectivement, une présentation de 168 athlètes russes, ce qui représente pour une délégation qui est censée être décapitée quand même beaucoup de participants. Oui. Alors vous allez me dire pourquoi.
Ben oui.
La réponse, c'est que une grande partie des Russes qui participent aux Jeux Olympiques en 2018 participent à leurs premiers Jeux Olympiques. Donc est-ce que pour cela, on peut faire le même procès en fait que ce qui a été fait pour 2014? Je pense que là, on a une partie de la réponse. C'était à l'idée, c'est comme ce sont des primo arrivants, on ne peut pas leur appliquer la même sanction en fait que leurs prédécesseurs. Et je pense que dans la décision, il y a effectivement un élément politique. Il y a aussi un élément économique, et effectivement, le CIO a certes des positions parfois, voilà, ou en tout cas, il y a une suspension du comité olympique russe, il y a aussi la volonté finalement de ne pas s'aliéner une puissance politique, essentiellement économique également, voilà, qui...
De la part du TASS, on est bien d'accord, mais de la part du CIO, pourquoi le CIO veut pas tenir compte du verdict du tribunal arbitral du sport? Vincent Chaudel, d'après vous? je me pose plein de questions et je vous les pose. Hein.
j'entends bien. Il faut avoir aussi à l'esprit que ce que j'évoquais tout à l'heure, que le mouvement olympique doit se refonder, s'imaginer autrement. Et là-dessus, si on va au bout de l'exclusion de la Russie, on n'est pas à l'abri que la Russie imagine d'organiser des compétitions autrement. Et la Russie a la capacité d'avoir une certaine influence sur quelques nations. Donc la force du CIO, c'est de dire, moi, je représente le mouvement sportif et je suis même plus grand que l'ONU, par exemple. Je suis universel, j'intègre tout le monde. C'est pas le moment nécessairement de se dire, au moment où je dois me refonder, de m'exclure une partie du monde et une partie du monde influente.
Mais est-ce que quand même ces prises de position contradictoires ne discréditent pas d'une certaine manière le TAS, Florent Parmentier, tribunal arbitral du sport qui émet une décision dont on ne tient pas compte?
Oui, il est évident que là, on a un CIO qui est une instance politique. On a, comme cela a été très bien dit, finalement, 200 pays qui sont présentés, un peu plus, qui est effectivement plus grand que l'ONU, face à un tribunal qui, lui, résonne avant tout en termes juridiques. Donc on a cette opposition entre légalité et légitimité qu'on retrouve à ce moment-là. Et effectivement, la question posée est bien de cet ordre-là.
Mmh. C'est sans conséquence pour vous ce différend entre les deux institutions, CIO et TAS, Vincent Chaudel?
Non, je pense que les choses vont petit à petit rentrer dans l'ordre. Chacun était dans son rôle. Je pense que Vladimir Poutine ne va pas aller plus loin dans la discussion aussi, et que quelque part, tout le monde aura assumé sa position. Poutine aura dit c'est injuste, on n'est pas les seuls, etc. Le TAS aura fait respecter le droit et le CIO aura trouvé une solution de sortie par le haut, et après on passera au JO d'été à Tokyo et on passera à autre chose.
Alors une sortie par le haut, ça veut dire le retour de la Russie dans les compétitions olympiques. Il est envisagé,
oui,
j'imagine. Comment, à quelles échéances? Je commence par Florent Parmentier.
Je pense que là, on a déjà une présence symbolique. Donc, ça acte quand même le fait qu'on a 168 athlètes venant de Russie. Donc, on pourra pas dire que là, je crois d'ailleurs que tout le monde aura compris autour de la table, les participants, qu'il s'agit bien de la Russie. Quand sortira-t-on? J'ai presque envie de dire qu'il y a un temps politique, pour le coup, qui sera assez similaire. Il faut se souvenir que la Russie a été exclue suite à la guerre en Ukraine en 2014, a été exclue du G8, qui est devenu G7, elle a été exclue d'un certain nombre d'instances, en tout cas elle a été marginalisée dans un certain nombre de positions internationales. Elle a été effectivement vers d'autres organisations. Et donc on peut penser, voilà, que ce temps politique-là va précipiter ou ralentir au contraire le plein retour de la Russie au sein du mouvement olympique, c'est-à-dire à un moment où elle pourrait utiliser son drapeau et son hymne national.
D'accord. Comment vous envisagez-vous les échéances, Vincent Chaudel, dans cette affaire?
Je pense qu'on aura une délégation russe aux prochains Jeux Olympiques, c'est-à-dire à Tokyo.
Et comment se situent alors vous vous intéressez au football, je le sais, Vincent Chaudel, comment se situent les autres grandes instances sportives, la FIFA, vis-à-vis de la Russie? Est-ce qu'on est dans le même questionnement ou pas?
Sur le questionnement du dopage, par exemple? Alors, le football est un sport où le sujet du dopage est... Je dis pas qu'il n'y a jamais eu de dopage en football, mais que le traitement du dopage a été assez tardif. Et finalement, on est dans un sport collectif et non pas un sport individuel de puissance. Et donc, je crois pas que ce soit le sujet majeur, et je ne pense pas que la Russie soit un candidat principal pour le titre mondial. Donc elle accueille, et ce qu'elle cherche à démontrer, c'est sa capacité d'accueillir le monde. Ce qu'il faut, c'est que l'équipe russe ne soit pas ridicule et qu'elle ne sorte pas par la petite porte à la phase de poule. Mais au-delà de ça, je vois pas de d'enjeu majeur par rapport à cette compétition. Les stades vont être faits et ils vont faire en sorte qu'ils soient remplis.
À confirmer cet été. En tout cas, il y a 168 sportifs qui vont participer sous le drapeau olympique en tant qu'athlètes olympiques de Russie. Alors pour les autres, le Kremlin a annoncé cette semaine la tenue d'une contre-compétition. On a des nouvelles de cette contre-compétition, c'est promesse en l'air de Vladimir Poutine.
Ce n'est pas la première annonce de ce genre. Récemment, on a eu la question de la Russie à l'Eurovision a été posée. La Russie est régulièrement très bien placée, l'estime parfois être perdante pour des raisons politiques et pas du tout pour des raisons artistiques. Donc il y a là vraiment un point. Il faut se souvenir que dans les années 1920, en réalité, l'Union soviétique voulait elle-même déjà lancer ses propres compétitions. Il y a eu des compétitions, des Coupes du Monde ouvrières en quelque sorte, donc peut-être un nouveau sous le soleil, mais surtout je ne pense pas qu'on ira jusqu'au bout du processus.
On n'en dira pas plus ce soir, on va voir comment évolue la situation. Merci à tous les deux. Florent Parmentier, maître de conférence à Sciences Po, cofondateur du site web géopolitique Eurasia Prospective, et puis Vincent Chaudel, économiste du sport, expert du cabinet Wavestone. Merci à Florence Ponce, à Claude Battista qui réalise cette émission. Pour l'instant, vous êtes à